Masterpiece, le podcast.
Masterpiece. Et tu fais quoi ce soir ?
Je vais au théâtre de l'Union.
Ah bon ? Tu vas voir quoi ?
Angels in America.
Ah, mais c'est pas une pièce de Tony Kushner, ça ?
Si, et mis en scène par Aurélie Vandendal.
Il y a plusieurs représentations.
Oui, du 16 au 18 décembre, tu viens ?
Allez, on y va.
Pour comprendre les années 80 et pour comprendre l'arrivée de Reagan, en fait, il faut remonter le temps, pas beaucoup, mais un petit peu quand même, au début des années 70. 72, 73, c'est le moment où, par exemple, le droit à l'avortement est légalisé aux États-Unis, 73. Et puis, c'est le moment où la question de l'égalité entre les sexes rentre aussi dans la loi américaine. Et on voit un peu comme on a pu le voir en France plus tard, à chaque fois qu'il y a des avancées finalement pour des fractions minoritaires, il y a des forces assez profondes, réactionnaires, qui réémergent et qui sont galvanisées par ces avancées. Et c'est exactement ce qui s'est fait dans les années 70 et 80 avec ce qu'on appelait la nouvelle droite, très réactionnaire, qui porte des gens comme Reagan au pouvoir, mais des conseillers autour de lui comme Pat Buchanan, par exemple, qui sont vraiment des ultras, quoi, et qui sont galvanisés par les avancées des minorités et qui construisent un programme sur la défense de la norme, quoi. Et donc plutôt la défense d'une Amérique qui est une Amérique blanche. C'est le début, en fait, avec Reagan, d'une mythologie qui est celle du blanc, de l'homme blanc assiégé, devenu une sorte de minoritaire majoritaire, et qui est agressé par les conquêtes des droits, par les femmes, les gays, et évidemment aussi les noirs dans les années 1960 avec le mouvement des droits civiques. Donc c'est une époque qui est vraiment marquée par des formes de réaction qui sont puissantes, puisqu'elles arrivent à conditionner l'élection présidentielle. Et c'est aussi une époque où cette droite américaine, qui dans les idées réactionnaires, va utiliser les moyens de communication et les images les plus modernes, et notamment le cinéma, pour rendre d'une certaine manière, je dirais pas cool, mais en tout cas à la page, hype, ces conceptions qui sont des conceptions profondément réactionnaires. Les années 80, elles vont permettre d'incarner cette réaction de la nouvelle droite, et on voit une alliance assez puissante entre Hollywood à cette époque-là et cette droite plutôt réactionnaire autour de l'idéologie de ce que Suzanne Jeffords appelle les « hard bodies », les corps puissants, durs, forts, quoi. Et c'est tout un cinéma d'action. Alors, il y a celui avec Stallone, Schwarzenegger, d'autres acteurs qui portent comme ça pas juste un cinéma d'action, mais un cinéma du corps fort, puissant, qui est toujours à opposer dans un rapport dialectique avec les autres corps qui sont marginalisés ou battus dans ces films. Autrement dit, corps noir contre corps blanc, corps d'autres minorités contre corps blanc, corps des femmes, corps de ceux qui sont considérés comme des assistés dans la société, les drogués, etc., avec des stratégies puissantes d'invisibilisation des communautés LGBT à l'époque. Enfin, c'est très net, quoi. En fait, les personnages appartenant aux communautés gays ou lesbiennes dans le cinéma des années 80, bah, en général, ce sont des personnages négatifs ou des personnages qu'on ne voit pas. Et aucun imaginaire, finalement, sauf venant de la contre-culture, n'apparaît. Une des grandes figures gays de l'Amérique des années 70-80, c'est Harvey Milk, qui est d'ailleurs devenu ensuite le héros d'un biopic. Harvey Milk, qui se bat à San Francisco pour les droits des minorités, c'est lui notamment qui qui porte un amendement à San Francisco qui permet d'arrêter la discrimination pour les logements contre les homosexuels. Je crois qu'il exerce quelque chose comme 10 ou 11 mois, et en fait, il est assassiné avec le maire de San Francisco. Donc, même du côté politique, en fait, l'émergence de figures contre-culturelles, elle est très compliquée dans cette Amérique des années, de la fin des années 70 et du début des années 80. Je pense qu'on ne peut pas non plus comprendre cette période sans comprendre tout ce que le sida, enfin tout ce que la peur du sida porte en elle à partir du début des années 80. En fait, il y a plusieurs phases hein, dans l'épidémie de sida. Il y a le moment où on comprend que c'est une maladie, donc tout début des années 80, 81. Et puis il y a tout le moment où on ne comprend pas les maladies et où on accuse les hommes homosexuels d'être les vecteurs de la maladie.
On n'en finit plus de parler du sida, ce mal mystérieux qui s'est propagé surtout dans la communauté homosexuelle et qui s'est révélé mortel pour près de 500 personnes.
Début des années 80, certains pensent encore qu'on peut tomber malade par contact. Hein. C'est-à-dire, y a vraiment l'idée qu'ils sont physiquement dangereux, quoi.
Si j'attrape cette maladie au contact de quelqu'un, je ne sais pas si je ne vais pas la transmettre à ma famille, ça m'inquiète beaucoup. Et à New York, où les employés des maisons funéraires refusent de toucher au corps des morts de la maladie des homosexuels.
Donc tout ça va alimenter des formes de dégoût physique, des volontés de détachement très puissants, qu'on voit aussi en fait hein, dans la culture de masse, dans ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire des personnages incarnant autre chose que l'hétéronormie, qui sont toujours rejetés du côté des méchants, de ceux qu'on clash, de ceux qui se font trucider, de ceux qui sont considérés comme animés par des idées mauvaises, etc. etc. quoi. Donc il y a vraiment ce climat-là qui rejette les homosexuels en marge de la société. Avec Ronald Reagan qui, dans le fond, attend la fin des années 80, je crois que c'est 87, le premier discours vraiment important de Reagan sur la question du sida. Elle émerge en 81 quand même. Hein.
I want to talk tonight about the disease that has brought us all together. It has been talked about and I'm going to continue. The poet W.H. Auden said that the true men of action in our times are not the politicians and statesmen, but the scientists. I believe that's especially true when it comes to the AIDS epidemic. Those of us in government can educate our citizens about the dangers. We can encourage safe behavior. We can test to determine how widespread the virus is. We can do any number of things. But only medical science can ever truly defeat AIDS.
On estime que, dans le fond, c'est une maladie qui touche les homosexuels. Ils l'ont bien cherché. Je parlais tout à l'heure du climat religieux. Il y a un côté, voilà, vous avez péché, donc vous n'avez que ce que vous méritez, donc voilà, c'est une épidémie qui ne nous concerne pas. Et à partir du moment où on comprend que l'épidémie, en fait, elle ne va pas rester cantonnée à la communauté gay, c'est là où il y a cette espèce à la fois cette espèce d'hystérie contre les homosexuels, et où dans le même temps, on voit un cinéma de l'hypervirilité. Parce qu'il est hors de question, finalement, qu'un héros dans les années 80 puisse, de près ou de loin, être associé à un imaginaire gay. Parce que c'est vraiment être du côté de ceux qui propagent l'épidémie, quoi. Donc ce cinéma des corps forts, des hard bodies, il se comprend aussi dans ce qu'il ne montre pas, ou dans ce qu'il laisse de côté. Et dans ce qu'il laisse de côté, il y a, en fait, le corps masculin homosexuel. Je pourrais ajouter que c'est un temps de lutte vraiment radical qui est aussi lié à des changements de règles électorales. En fait, à la fin des années 70, les partis ne peuvent plus toucher des dons importants. Il y a eu des cas de pots de vin qui ont été trop importants, il y a eu des affaires, donc la règle électorale change. On ne peut plus avoir que des petits dons pour financer des campagnes. Qui est capable de mobiliser des petits dons? En fait, des communautés qui vont être extrêmement mobilisées ou extrêmement mobilisables, et aux deux spectres du champ politique, il y a par exemple les groupements chrétiens ou évangélistes qui sont capables de rafler de l'argent auprès des fidèles au moment de la messe, quoi. Et de l'autre côté, des communautés comme celle des gays dans les grandes villes du sud-ouest aux États-Unis, qui ont l'habitude d'être mobilisés, qui sont capables aussi de coups de main assez forts. Hein, je pense aux émeutes à San Francisco qui suivent l'acquittement de l'assassin d'Harvey Milk. Ces communautés qui sont très polarisées, elles sont capables de mobiliser à la fois des gens qui votent, mais aussi des gens qui donnent. Et c'est ça qui explique en très large partie des formes de radicalisation des partis traditionnels. Et avant les années 80, l'alliance entre les anti-LGBT et le Parti républicain, et de l'autre côté les démocrates et les communautés gays, en fait tout ça ne se fige qu'avec les années 1980 et avec cette volonté de mobiliser des électorats très, très remontés. Donc tout ça, en fait, se construit juste avant l'avènement de Reagan et prépare des années de grande conflictualité à l'intérieur de la société américaine, au point que un conseiller de Reagan comme Pat Buchanan, qui est c'est un conservateur religieux ultra, quoi, comme il y en a dans la politique américaine, une fois la guerre froide proche de se terminer, lui, il dit, bon, en fait, la vraie guerre culturelle, c'est pas la guerre froide. La vraie guerre culturelle, c'est celle qui se mène en ce moment dans notre pays, parce qu'il y a des minorités qui se font trop entendre, qui veulent trop défendre leurs droits, etc. Et la vraie guerre culturelle, elle est là pour conserver les valeurs de l'Amérique de toujours, quoi. C'est intéressant parce que, évidemment, et c'est sans doute tout l'intérêt du spectacle qui va être présenté ces jours-ci, au Théâtre de l'Union, c'est que ça fait un écho incroyable avec la période qu'on connaît nous aujourd'hui, quoi. Et c'est pas très rassurant quand on voit ce que ça a donné aux États-Unis dans les années 80 et 90.
C'était Masterpiece, un podcast réalisé par le Master CCIC de la Fac de Lettres de Limoges, avec la participation de Loïc Artiaga, historien et maître de conférences de l'université. Merci pour votre écoute. La suite au prochain épisode.